Bienvenue chez CEO,
le podcast qui décrypte les codes du monde de l'entreprise
pour la jeunesse étudiante.
Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez CEO. Aujourd'hui, on est en direct pour notre quatrième émission dans les studios de Radio Campus. Et comme à mon habitude, je suis accompagné de mon confrère, Pierre-Damien Foucou, qui est doctorant en droit bancaire, chargé de TD et formateur en art oratoire.
Bonjour tout le monde, moi c'est Pierre-Damien Foucou, comme vous venez de l'écouter, et je suis accompagné, j'ai le plaisir d'être accompagné encore aujourd'hui de mon confrère, mon frère, mon ami, Tom Brel. Tom Brel qui est directeur en formation et intrapreneur dans le domaine de la grande distribution en Afrique de l'Ouest.
En effet, on est heureux de pouvoir décrypter, échanger et débattre autour d'un nouveau sujet d'actualité qui est celui de la candidature. Car en tant que jeune actif, étudiant ou alternant, nous sommes tous passés par ces étapes de recherche d'une école, d'un stage ou bien d'une alternance, voire même d'un job au cours de notre vie. Et dans le cadre de ce podcast, nous souhaitons partager les points clés que nous avons identifiés à travers nos expériences respectives afin de vous faire gagner du temps sur la construction de votre avenir professionnel. N'est-ce pas Pierre-Damien ?
Exactement, d'autant plus qu'actuellement c'est la phase de candidature pour les étudiants en licence 3. Alors j'ai plein d'étudiants qui m'en parlent et qui sont assez stressés parce qu'il faut qu'ils fassent leur lettre de motivation, leur candidature, qu'ils essayent de sonder le terrain afin de voir comment optimiser leur profil étudiant afin que leur candidature soit bien perçue et surtout puisse toucher les universités dans lesquelles ils veulent entrer.
D'ailleurs, en parlant d'université, d'après toi, quelles sont les étapes nécessaire pour commencer une candidature? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des entretiens, mais je pense qu'il y a des étapes préliminaires.
Alors bien sûr, la candidature, c'est certes l'étape principale, mais il y a tout ce qui concerne l'avant-candidature, comment est-ce qu'on se prépare. Et l'avant-candidature, c'est cette recherche qu'on a à faire déjà de la formation, quelque chose qui n'est pas si évident que cela. Il faut rechercher la formation. Et moi particulièrement, alors certes, il y a plein de modules, plein de conseils sur Internet qui vous montrent comment faire des recherches de formation. Mais moi, j'aimerais surtout attirer l'attention de celles et ceux qui nous écoutent sur un élément particulier. C'est que généralement, lorsqu'on cherche nos formations, lorsqu'on cherche le cursus dans lequel on va s'inscrire, on emprunte très souvent des sentiers traditionnels. C'est-à-dire, on se dit, peut-être qu'on est en Master 1 ou on est en Licence 3, donc automatiquement, on va aller en Master 1. Si on est en Licence 3, par exemple, on va en Master 1 tout simplement, on cherche juste un Master 1, sans forcément se poser la question de quels sont les modes de formation qu'il peut y avoir. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y en a énormément. Parlons par exemple des formations qui se font en mode d'alternance, des formations qui se font en distanciel, etc. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, grâce à la numérisation, grâce à plein de choses, grâce à tous les nouveaux modes de formation qu'on a, on peut sortir de ces sentiers traditionnels et choisir quelque chose qui nous permettrait même de toucher directement la pratique. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je suis totalement d'accord avec toi et je pense aussi qu'on peut aussi être très perdu parce qu'en fait, on est dans l'abondance de système d'éducation et on est perdu dans le flux de la communication et perdu dans le flux de la publicité parce que je pense qu'il y a tellement d'écoles à l'heure actuelle qu'ils nous vendent en fait du rêve. On peut passer d'une école de commerce à une école d'ingénieur et ils nous vendent tous en fait plus ou moins une certaine poudre et malheureusement je trouve qu'on peut être assez perdu dans ce flux d'informations et je pense qu'il est vraiment nécessaire de faire une introspection et d'aller dans le vif du sujet.
Et à ton avis, comment est-ce qu'on fait pour essayer de ne pas succomber à ce flou, du moins à ces rêves qui sont vendus?
Je pense qu'il faut faire d'une part preuve d'un esprit critique et de l'autre, je pense qu'il faut aller se confronter à la réalité parce que je pense qu'il est nécessaire d'aller dans les salons, ça c'est étape 1, mais il ne faut pas s'arrêter à ça parce qu'on sait d'ores et déjà que toutes les personnes qui sont dans le salon, c'est des promoteurs. Ils vont vendre leur école. Ils ne sont pas forcément là pour nous donner aussi tous les tenants et les aboutissants. Et je pense qu'il est nécessaire aussi d'aller faire d'une certaine manière, faire preuve d'une certaine d'un esprit critique et d'aller voir les personnes qui ont aussi qui vont me dire les avantages et les inconvénients. Par exemple, un exemple concret, j'avais été dans un salon et j'avais été à la rencontre des personnes. Et la première question que je lui ai dit, c'est est-ce que tu pourrais me faire rencontrer une personne qui pense tout l'inverse de toi par rapport à l'école? Ça me permettrait d'avoir une idée un peu plus générale des avantages et des inconvénients de l'école. Et à partir de là, ça me permettait ainsi de pouvoir comprendre davantage ce qui se passe dans l'enceinte de l'école. Parce que C'est vraiment important d'aller creuser les sujets parce qu'il y a beaucoup de mes collègues qui se sont perdus en fait dans une université ou bien en fait dans un centre de formation qui ne correspondait pas soit à leurs valeurs, soit à leurs attentes en termes de contenu ou soit à leurs attentes en termes de pédagogie.
Et est-ce que tu penses que, à ton avis, est-ce que c'est un problème généralement de l'université, supposons qu'il y ait un étudiant ou une étudiante qui ne s'en sorte pas, ou du moins qui trouve que la formation ne correspond pas aux attendus, ou qui trouve que la formation ne lui correspond pas tout simplement. Est-ce que tu penses que cela est dû généralement au profil de l'étudiant, peut-être à la posture dans laquelle l'étudiant a été, peut-être à la manière même dont l'étudiant a affronté les études, pour le dire comme ça, ou est-ce que c'est forcément à cause de l'université? Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense qu'on a nos responsabilités à prendre dans le cadre de ces recherches, et je pense que les étudiants, nous, en tant qu'étudiants, on se doit d'aller au-delà en fait de ce qui se passe dans le cadre des salons, dans le cadre des publicités, et on se doit d'aller creuser, parce que je pense que les années d'études, c'est les étapes, c'est les premières pierres à l'édifice dans le cadre de nos projets professionnels, et je pense que c'est important de le prendre au sérieux. Maintenant, la concurrence est rude, un master devient très banal. Le master d'aujourd'hui était le bac de l'année de nos grands-parents. Et je pense que maintenant, il est nécessaire de savoir faire preuve d'une certaine aspérité. Et pour avoir preuve d'aspérité, il est vraiment important d'aller creuser en termes de contenu, d'aller creuser en termes de spécialité, d'aller creuser en termes d'attendu, parce qu'une université n'a pas les mêmes attendus que dans une école de commerce. Une école de commerce n'a pas les mêmes attendus que dans une école d'ingénieur. Il y en a un qui est plutôt empirique, l'autre plutôt didactique. Et je pense que c'est vraiment important de prendre cela en compte, parce qu'il y a beaucoup de décrochage scolaire. Et ce décrochage scolaire est dû aussi à une méconnaissance du contenu et de l'environnement si étudiantin.
Ok. Alors, là, une question qui me taraude, moi, depuis, je suis même passé par là, c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on essaye d'en parler, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'étudiants qui sont également confrontés à la même situation. Alors, bien sûr, on nous dit que généralement, c'est toujours mieux, et c'est vrai. C'est mieux d'avoir un projet, de se dire que je sais où est-ce que je veux aller. Généralement, quand on a un projet, on sait comment mobiliser, aménager notre vie pour que ce projet soit atteint. Mais que se passe-t-il si, par exemple, en L3 ou en Master 1, à ton avis, hein, supposons qu'en L3, quelqu'un qui fait du droit, vu que c'est mon domaine, quelqu'un qui fait du droit, arrive en L3 et ne sait pas exactement où aller. Moi, j'ai bien un avis sur la question, mais j'aimerais également entendre le tien. Donc, à ton avis, qu'est-ce que cette personne-là peut faire pour essayer de s'en sortir? Parce que, comme tu le répétais, comme tu le disais tout à l'heure, évidemment qu'il y a énormément d'offres, et d'offres aussi très intéressantes. Tous les masters sont très intéressants. Donc, à ton avis, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver cet équilibre ou cette formation qui va être profitable à nous par rapport à notre profil, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver sa voie, selon toi?
Je pense qu'il est important de diversifier les sources. On parlait des étudiants, des promoteurs dans les salons. Je pense c'est d'aller diversifier en fait les types de profils qui sont dans les classes, des personnes qui ont fini les études, les personnes qui sont en cours d'études et les personnes qui ont débuté les études dans cette école ou dans cette formation. Ça permet d'avoir les tenants et les aboutissants d'un côté étudiantin. De l'autre, je pense que c'est important aussi d'aller confronter auprès des professeurs, auprès des intervenants. Parce que les intervenants, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent, ils ont cet esprit critique parce que ils vont dans différents centres de formation, ils ont différents types de profils, différents types de classes, donc ils peuvent aussi apporter cette prise de recul en fait par rapport à nos attendus, qui nous permettra ainsi d'avoir un maximum d'informations, parce que comme on le disait dans nos anciens podcasts, notre prise de décision dépend de notre niveau d'information. Donc je pense que sur cette partie-là, ça, c'est important de prendre en compte. Et j'en dirais un troisième qui dépend de nous, c'est d'aller faire un vie-ma-vie.
Ok, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un vie-ma-vie?
Un vie-ma-vie, c'est comme un stage de très court terme qui permet d'aller se confronter à la dure réalité. Dans le cadre d'une alternance, par exemple. Exemple concret, on peut aller faire un vie-ma-vie de 3 jours et une semaine qui nous permet ainsi d'être dans la peau du poste qu'on souhaite obtenir. Okay. Tu parlais d'un juriste. Imaginons, on veut être juriste. Ben en fait, on peut proposer un vie-ma-vie qui dure entre 3 et une semaine pour accompagner une personne à son quotidien et pour observer en fait les problématiques terrain, les contraintes, les avantages, les inconvénients. Et à partir de là, on aura cette intime conviction que on souhaite on ne souhaite pas continuer dans cette voie, parce que malheureusement, parfois, on passe 5 ans de notre vie à être dans un idéalisme du poste, et malheureusement, une fois qu'on est sur le terrain, on se rend compte qu'on a on a perdu 5 ans de nos études, et on va à chaque fois changer de métier, mais malheureusement notre diplôme n'a pas de valeur par rapport au domaine qu'on souhaite aller. Et ça, c'est dommage.
Intéressant, c'est assez intéressant le vie ma vie dont tu parles. Après, c'est déjà mieux que rien, parce que vaut mieux, même si c'est évident qu'une semaine ou deux ou trois jours ne pourrait pas véritablement réussir à montrer tout l'envers du décor et toute la minutie du boulot de la profession. Au moins, c'est déjà quelque chose, c'est déjà mieux
bien
que
sûr,
rien.
Bien sûr, c'est vrai.
C'est déjà mieux que rien. Après, en même temps, je tiens à préciser le vie ma vie, vu que c'est principalement pour un job, pour un emploi, et donc ça ne peut pas s'appliquer manifestement. En tout cas, je ne sais pas, j'ai pas d'informations sur ça, mais ça ne peut pas s'appliquer dans le milieu estudiantin. Ça veut dire que les étudiants qui sont en recherche d'une formation qui sera avantageuse pour eux, ces étudiants-là se trouvent quand même confrontés à quelque chose d'assez complexe. Complexe parce qu'on leur dit « Ah, il faut faire ceci. Ah, cette formation va vous ouvrir des portes. » Alors que finalement, ces étudiants ne savent même pas s'ils vont aimer la formation. Et c'est pour ça que je te rejoins également sur lorsque tu disais qu'on a une part de responsabilité. Certes, on n'a pas tout. On n'a pas toutes les informations, mais déjà la démarche de recherche d'informations, c'est quelque chose d'extrêmement crucial.
Bien sûr.
Et il ne faut surtout pas se contenter, comme on le disait dès le départ, se contenter aux simples informations que l'on reçoit, que l'on va aller voir sur une page d'accueil d'une université, ou etc. C'est du marketing, c'est totalement normal que l'université elle-même, elle se vende. Mais là où j'aimerais également attirer l'attention des étudiants, c'est LinkedIn. Étant donné que LinkedIn met en relation des personnes qui ont eu affaire à une université, par exemple, donc des étudiants. Donc, on sait quels étudiants sont passés par une université. Bah, il faut prendre les devants, aller voir l'étudiant, essayer donc d'aller sur LinkedIn, essayer de voir les étudiants qui ont peut-être fait l'université, voir plus précisément la formation dans laquelle la formation qu'on désire avoir, et essayer de les questionner. Essayer de voir avec eux comment est-ce que ça s'est passé sur déjà la psychologie, sur ce que la formation leur a permis d'avoir également. Et pour ça, il y a aussi, et il faut qu'on essaie, il faut que les étudiants essaient de le voir sur LinkedIn, il y a des groupes, des alumni d'anciens étudiants qui généralement forment des groupes et qui donc par rapport à cela sont une ressource importante dans la découverte de la formation lorsqu'on veut avoir un champ ou une perspective assez étendue sur la précision même de ce que l'information peut octroyer.
Je te rejoins totalement et je pense qu'à partir de là, on peut commencer à se lancer dans une étape de candidature avec conviction. Mmh. Parce que malheureusement, quand beaucoup d'élèves en fait, parlent de marketing, parlent de marketing digital, le fait dans le management, l'entrepreneuriat, mais malheureusement, les mots sonnent creux parce que c'est un concept, mais ils n'ont pas été forcément faire ces démarches en amont à travers la recherche d'un stage, d'un vie ma vie, la recherche d'un réseau alumni pour aller comprendre en fait, les tenants, les aboutissants. Et comme on disait auparavant, je pense qu'il est vraiment important d'aller confronter avec une personne qui est en cours de formation, qui débute la formation, une personne qui est sortie de la formation avec des avis divergents, parce que je pense que les avis divergents forgent en fait une certaine vision globale et ça permet ainsi de prendre une meilleure décision.
Totalement. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose avant qu'on ne passe à l'étape suivante. Par rapport à la formation, du moins lorsqu'on s'inscrit dans une formation ou dans un job, la plupart du temps, on se pose deux questions. Est-ce que je vais aimer ? Et surtout, est-ce que ça me fait gagner de l'argent ? Généralement, c'est surtout ça. Donc, ça va faire gagner de l'argent si le job est utile, si le job répond à un besoin de la société, à un besoin qui, sur la durée en tout cas, va continuer d'exister, va demander des approches de solutions, donc va demander une certaine action. Et après, est-ce que ça me plaît ? Parce qu'il y a des boulots, il y a des jobs qui, en termes de rémunération, sont corrects, voire très corrects, mais qui ne vont pas forcément nous plaire. Donc je pense que c'est déjà par rapport à ça, donc là on vient d'aborder la partie comment savoir qu'une formation va nous plaire, donc faire une analyse de terrain auprès des personnes qui sont passées par cette formation-là. Mais il faut également se renseigner sur l'utilité du job, mais pas à court terme, mais à long terme. Parce qu'il y a plein de boulots, ou du moins je parle du job, de l'utilité de la formation. Parce que lorsqu'on va par exemple, on veut faire une formation, je dis n'importe quoi en droit. Alors là par exemple, la tendance c'est le numérique. Mmh. Tout ce qui est numérique, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est marketing, par exemple.
L'IA.
Exactement, l'IA. Donc, ça veut dire que on sait que sur cette tendance actuelle et sur encore plusieurs années qui vont venir, avoir des compétences particulières dans tout ce qui va concerner le numérique, quel que soit le domaine, qu'on soit en droit, qu'on soit en informatique, c'est déjà le cas. En gros, particulièrement quand on est en droit, je prends cet exemple vu que c'est celui que je connais, c'est prendre de l'avance sur quelqu'un qui ne l'aurait pas fait. Parce qu'il y aura des problématiques qui auront besoin d'experts dans ce domaine-là. Ça signifie que moi, ce que je recommande, c'est vraiment de faire une analyse de terrain. Et l'analyse de terrain, en termes de besoins, ne peut se faire qu'avec les intervenants, les professeurs, les praticiens. Et parfois, et bien évidemment, sur des blogs, mais des blogs tenus par ces personnes-là. Parce que seules des personnes qui pratiquent déjà aujourd'hui ont cette vision sur le long terme qui nous permettra de dire que cette vision qui permettra de dire que là c'est important, là il faut y aller et là peut-être que c'est un besoin, il y a un engorgement. Donc c'est là où je rejoignais ce que tu disais quand tu parlais des intervenants, il faut forcément y aller voir les professeurs, aller voir les intervenants des formations, aller voir des personnes qui sont dans le milieu pratique, comme ça ces personnes pourront nous dire vraiment si une telle formation ou une telle compétence, parce que c'est ce qu'on recherche, sera utile et est utile.
C'est clair, et je pense que c'est important de sortir la tête de l'eau parce que les centres de formation ne font que réagir au marché. Et comme tu disais, il y a beaucoup de centres de formation qui sont engorgés et on en ressort avec un diplôme. Mais malheureusement, entre l'offre et la demande, ce qui était utile aujourd'hui ne sera pas forcément demain. Et du fait que le monde ne cesse d'évoluer, je pense qu'il est important d'avoir une vision à 5, 10, 15 ans sur les futures tendances, sur les futurs besoins qui peuvent être nichés ou pas. Mais je pense qu'il ne faut pas se projeter sur aujourd'hui, il faut plutôt se projeter sur demain.
Exactement. Et pour ça, il faut avoir une perspective très grande. Il faut ouvrir son champ de perspective. C'est complexe d'être étudiant en vrai, parce que quand on réfléchit à tout ça, il faut penser à aujourd'hui, il faut penser à demain, sécuriser.
C'est un investissement sur l'avenir.
Exactement. Et pour ça, il faut essayer de prendre les bons codes. Alors ensuite, on va parler de l'entretien. Là, on a parlé en quelque sorte des candidatures, de la manière dont préparer sa candidature. Maintenant, après la candidature, on a décidé volontairement de ne pas parler de la candidature en elle-même, en gros, lettre de motivation, CV, parce qu'il y a déjà plein de modules qui peuvent donner des exemples et des conseils très intéressants par rapport à cela. Mais parlons directement de l'entretien. C'est-à-dire après qu'une candidature a été retenue, et pour un étudiant, ou du moins dans le milieu estudiantin, on passe d'abord par le filtre des notes, donc des moyennes. Mmh. Et une fois que les moyennes, on va dire, qui sont adéquates, ont été retenues, là maintenant, il y a l'entretien. L'entretien est quelque chose qui fait énormément peur aux étudiants.
Énormément peur, et je pense que ça prend de plus en plus de place dans le cadre d'un recrutement.
Totalement.
L'entretien, même un ami à moi qui a postulé dans l'une des plus grandes écoles de commerce, il est vrai que ce qui a fait la différence, et certes, il y avait son dossier, mais ce qui a pesé le plus en termes de pourcentage dans son recrutement, c'était son entretien. Et un entretien, ça se travaille. Et c'est vrai que dans le cadre de nos échanges, il y avait deux triptyques à prendre en compte qui sont essentiels, qu'on avait échangé la dernière fois. Ouais. C'était
Alors le premier triptyque, je l'aime énormément.
Déjà, je te laisse, là avant.
c'est un triptyque que je donne généralement à mes étudiants en art oratoire, parce que je me dis dans la posture de quelqu'un qui veut parler d'un orateur ou d'une oratrice, il faut avoir une certaine, en gros, certaines réflexions. Il y a un certain registre par lequel qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. Donc ce triptyque, c'est le suivant. C'est avant tout entretien, il faut impérativement avoir en tête trois questions. Qui es-tu ? Qui suis-je ? C'est quoi mon histoire ? Et où est-ce que je vais ? Ça a l'air banal comme ça, parce que généralement, on se dit qu'on y pense, mais il faut véritablement faire un travail dessus. Parce que si on te demande qui est-ce que tu es, ou du moins juste ton histoire, parfois c'est compliqué. Parce qu'on a fait parfois on fait énormément de choses dans l'avenir, dans le passé. On a fait énormément de choses, il y a beaucoup de choses qui nous caractérisent, mais quels sont ces éléments déterminants qui font partie de notre histoire, qui sont importants pour nous et qui nous caractérisent ? Donc, qui est-ce qu'on est ?
Qui est-ce qu'on est, c'est vrai.
Notre histoire. Mm-hmm. Et où est-ce qu'on va ? Le qui est-ce qu'on est, notre histoire, sont intimement liés. Et de toute façon, les trois sont intimement liés. Donc ce registre, je pense qu'il faut le travailler. Il faut le travailler de manière minutieuse, de telle sorte que même lorsqu'on dort et qu'on te réveille, lorsque tu dors, tu te réveilles, et on te réveille, on te dit qui est-ce que tu es ? Tu dis exactement qui est-ce que tu es. C'est quoi ton histoire ? Tu donnes ton histoire de manière précise. Et où est-ce que tu vas ? Tu essayes de dire au moins où est-ce que tu vas. Même si tu ne l'as pas de manière précise, au moins, vers quoi est-ce que tu es en train de tendre ?
C'est vrai, en fait, je pense que le qui tu es, c'est la partie abstraite. Oui. Après, je pense que l'histoire, c'est la partie concrète. C'est qu'est-ce mm-hmm. qu'on en a fait de qui on est. Et le où on va, en fait, je pense que c'est avec ce qui je suis et mon histoire, vers où je veux tendre. Et je pense que c'est vraiment important de prendre ces triptyques en compte. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de personnes qui sortent avec un master, qui sortent avec un doctorat,
c'est ça.
Qu'à l'heure actuelle, il est important de savoir aussi se différencier de la masse, savoir faire preuve d'une certaine audace. Et dernièrement, je pense qu'il est important, c'est savoir faire preuve d'authenticité. L'authenticité vient aussi d'une certaine introspection, et je pense que ça demande énormément de travail. Et il faut savoir mettre des mots sur ce qu'on est, et savoir mettre des mots aussi sur notre expérience. Et notre expérience, quoi qu'on fasse, qu'on a travaillé à McDo, qu'on a travaillé, je sais pas, en caisse, hein, dans une grande distribution, qu'on a
travaillé... Ça me rappelle des choses, ça.
T'es tic la deuil, ça. Je pense que on peut le valoriser. C'est essentiel, et je pense qu'il faut savoir aussi, d'une certaine manière, c'est du marketing. C'est le marketing de soi, en fait.
Exactement.
Savoir parler de soi, savoir parler de son expérience, savoir se dire vers où je veux aller. C'est essentiel, c'est du storytelling, en fait.
Ah bah bien sûr,
c'est du storytelling.
Et on ne peut faire un storytelling efficace sur notre personnalité que lorsqu'on s'est posé les bonnes questions. Parce que au fond, il faut conscientiser ces éléments-là. Bien sûr, on peut se mettre à parler de plein de choses, mais si on ne conscientise pas, qu'on se pose pas la question de, mais au fond, finalement, par rapport à ce que je fais, quelle est la cohérence? Qu'est-ce qui caractérise mon parcours ici? Bah, généralement, si on ne se pose pas cette question, on va se mettre à sortir des phrases bateau. Et là, pour faire le lien avec l'entretien, c'est très important par rapport à un entretien, parce qu'il faudra parler donc de ces éléments, mais sur deux aspects. Principalement sur l'aspect, bon, d'abord l'aspect personnel, mais aussi l'aspect professionnel, donc l'aspect étudiantin.
Je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on donne des exemples concrets quand même sur cette triptyque, sur le qui suis-je. Quels sont les éléments importants d'après toi qu'on pourrait partager ?
Sur le qui suis-je, c'est ce qui me caractérise à mon sens. Mm-hmm. Ce qui me caractérise, c'est-à-dire aujourd'hui, personnellement, qu'est-ce qui te caractérise ?
Ouais.
Alors moi, je dirais spontanément, c'est ma polyvalence et le fait que je sais faire des sacrifices.
Okay.
C'est quelque chose que généralement on met sur le CV, voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui, je pense, qui moi, de par la manière dont je vois les choses et la manière dont je vis, c'est quelque chose qui me caractérise. Ma polyvalence, parce que je suis convaincu que, alors certes, être spécialiste, c'est bien,
ouais,
mais pouvoir également avoir cette sagacité, cette aptitude à voir les besoins qu'il y a autour de nous et à se dire, ok, je vais essayer d'avoir un peu de compétence ici, un peu de compétence ici, tout en ayant bien évidemment une spécialité, quelque chose dans lequel on est imbattable. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens.
Ouais,
polyvalence et travail, parce que on peut tout faire, mais il faut à un moment donné vraiment travailler. Il faut les personnes qui réussissent la plupart du temps, je parle juste du milieu étudiantin, puisque c'est celui que je connais, c'est parce qu'il faut réussir à abattre un certain travail acharné, à avoir cette compétence là
okay.
Donc voilà, donc moi je sais que c'est ce qui me caractérise principalement. Donc si par exemple je vais avoir à expliquer, ou si je suis dans un entretien, c'est exactement ce que je dirais. Je donnerai des exemples de ma polyvalence. Je dirais par exemple que aujourd'hui je suis ici, j'ai réussi à faire ça, j'ai eu l'opportunité de faire ceci, l'art oratoire par exemple, tout ce qui va être association, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important. Et dire qu'on a eu à faire certaines expériences montre qui est-ce qu'on est. Parce que entre un étudiant lambda, en gros, un étudiant lambda, on est tous des personnes lambda, mais entre un étudiant qui a juste suivi, fait sa formation mais de manière linéaire, et un autre étudiant qui a fait sa formation, mais qui à côté s'est lancé dans des expériences associatives, a réussi à faire des stages, a essayé de participer à des conférences, etc. Ça en dit énormément sur cet étudiant. Ça montre que cet étudiant-là, il a une certaine passion, il a un certain engouement pour ce qu'il est en train de faire, et qu'il n'est pas juste en train de faire des études pour faire des études.
Donc d'une certaine manière, l'expérience, ça nous révèle, parce qu'on arrive à mettre des mots sur qui on est. Et je pense que le qui suis-je, en fait, c'est faire ressortir les valeurs. Qui sont endogènes, les valeurs qui sont propres à nous. Tu parlais de travail, tu parlais de polyvalence, et je pense que elle s'est révélée dans le cadre de tes diverses expériences. C'est vrai que je pense que c'est vraiment important qu'on parlait d'introspection, c'est de savoir se dire, ok, qu'est-ce qui m'a permis d'avancer, qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir passer à la prochaine étape. Et on parle de polyvalence, ça fait sens ce que tu dis, parce que le qui suis-je que j'ai toujours partagé, et après je pense qu'on évolue au fur et à mesure,
bien sûr.
Sans cesse remettre une certaine mise à jour.
Toi, tu serais quoi ton qui suis-je, à ton avis? C'est vrai que c'est complexe comme question.
Le qui suis-je, je pense qu'il m'a toujours coulé à la peau, c'est l'audace.
Ok.
Ce qui m'a permis de sortir des sentiers battus.
Ouais.
La deuxième, ça serait la force de conviction.
Ok.
La force de conviction, ce qui m'a permis ainsi de pouvoir persuader et apporter une certaine vision de ce que je pensais à l'heure actuelle.
Mmh.
Et la troisième, je dirais l'agilité.
Okay.
Parce que ça me dérange pas. Je suis comme un chat, je veux retomber sur mes pattes, en fait. D'une certaine manière, c'est faire preuve d'agilité, aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera autrement, et dans un environnement chaotique, ça ne me fait pas peur parce que dans tous les cas, je vais m'adapter.
Ouais. Bon, t'as pas peur de l'inconnu, d'aller vers un endroit qui peut-être manifestement te garantit un certain échec tant que...
Je dirais pas que c'est l'absence de peur, parce que je pense que je reste un être humain.
Et, ouais, c'est vrai. C'est...
Mmh. Et je pense que c'est plus de l'excitation. La peur, ça fait partie du processus. C'est plus de l'excitation, et je pense que le courage aussi, ça peut ressortir.
Ouais.
Parce qu'on parlait de courage la dernière fois, et... c'est le fait de le faire malgré la peur.
Exactement.
C'est avancer malgré la peur. Et je pense que le courage aussi, c'est quelque chose à remonter dans le cadre des valeurs. C'est quelque chose de très valorisé aussi dans un monde professionnel. Donc je pense que ce qu'on peut retenir sur le qui suis, je pense, c'est faire ressortir des valeurs propres à nous.
C'est ça.
Qui ont aussi à ressortir dans le cadre de nos diverses expériences.
Mmh.
Et ensuite, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un pont aussi avec notre histoire.
Exact. Je pense même que les deux sont intimement liés, les deux sont beaucoup plus liés même que le « où vas-tu ?». Parce qu'on peut... parce que le « qui suis-je », c'est « je suis ce que je suis parce que j'ai eu une histoire qui caractérise ma personnalité aujourd'hui.
Mmh.
Mon histoire professionnelle, par exemple, j'ai eu à travailler dans ci, j'ai eu à travailler dans ça. Mon histoire personnelle, par exemple, mes parents m'ont peut-être donné une vision ci de la vie, une vision ça de la vie. Il y a eu ce rapport-là à la vie, ce rapport-là aux gens. Donc tous ces éléments du passé, tous ces éléments qu'on a eu à traverser, nous permettent de développer déjà notre personnalité, parce que la personnalité n'est pas immuable, elle se développe, et nous permettent d'en savoir beaucoup plus sur nous. Donc, moi, je suis convaincu, et de toute façon, c'est un fait. L'histoire et le qui suis-je sont intimement liés.
Et je trouve que l'histoire, ça appartient plus au passé, et le qui suis-je, ça appartient plus au présent.
Mm-hmm.
Parce que quand tu disais l'histoire, c'est qu'est-ce que tu as fait de ta vie, mm-hmm, par rapport à par rapport à l'environnement dans lequel tu as évolué, par rapport à l'éducation que tu as eue, par rapport aux rencontres que tu as eues sur ton chemin. Et le qui suis-je, c'est qu'est-ce que tu en as fait et
c'est
qu'est-ce
ça.
que tu en as ressorti.
Exactement.
Et c'est vrai que le où tu vas, c'est ok, maintenant avec ton bagage, où souhaites-tu donner la première pierre à l'édifice? Dans quelle direction veux-tu aller?
Exactement. Et c'est là où, quand on retombe encore sur nos pattes, tel un chat, par rapport à l'entretien dans le milieu estudiantin, il faut qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire mon histoire m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui.
Ouais.
Donc m'a permis d'avoir des compétences particulières, une personnalité ainsi qu'une vision particulière. Laquelle personnalité, laquelle vision, lesquelles compétences me permettent aussi de me dire « ok », de peaufiner ma vision et de me dire « voici là où je veux aller ». Et là, lorsqu'on est en entretien, s'il y a une certaine cohérence entre ces trois éléments, on dira donc au recruteur « bah, je vais là ». Et je sais que votre formation me permettra d'aller là. Et parce que votre formation me permettra d'aller là, je vais user de toutes mes compétences. Je vais faire usage de tout ce que j'ai acquis jusqu'aujourd'hui, mes acquis théoriques ainsi que mes acquis pratiques, pour mener à bien cette formation. Et je pense que quand on a cette cohérence-là, cette cohérence avec ce triptyque, généralement, on réussit à être convaincant.
Je pense aussi, et je pense qu'aussi, on parle de convaincant, il y a aussi la partie persuasive, parce que c'est vrai que à l'heure actuelle, on n'a pas encore candidaté face à des robots.
Oui.
Je pense qu'il y a la partie humaine qui est à prendre en compte et il faut faire preuve aussi.
On le fait déjà.
Oui.
On le fait déjà.
Ouais, mais je pense qu'il y a une deuxième triptyque qui est importante à prendre en compte.
Bien sûr, totalement.
C'est la triptyque qui est liée aussi à l'autre. Et je pense qu'il faut savoir faire preuve d'adaptabilité parce que ta manière de t'exprimer face à moi sera différente face à une autre. Et on le fait naturellement, mais je pense qu'il faut réussir à creuser le sujet, comme on disait auparavant. C'est cette triptyque, c'est quelque chose de très important.
Mmh.
Et la triptyque va être liée à la personne qu'on a en face. Je m'explique. On a un recruteur,
mmh,
on a une formation. Okay. Mais ce qui est important, c'est connaître l'histoire.
Mmh.
De la formation, l'histoire de l'entreprise ou bien l'histoire du recruteur. Ce qui permet aussi de créer des liens parce qu'en fait, les 10 premières secondes sont primordiales. Ça influe sur la suite pour se dire, ok, est-ce que cette personne, j'ai eu le flair ou pas,
mmh,
et malheureusement, ça peut nous porter préjudice. Donc je pense qu'il est important, c'est de créer du lien très rapidement avec cette personne et dans un second temps aussi, trouver des points communs par rapport à notre histoire, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre direction. Et tu parlais de LinkedIn, et LinkedIn, c'est très, très intéressant parce que ça permet ainsi de comprendre le parcours d'une personne, comprendre ses expériences, comprendre pas où elle est passée. Et on peut faire de même avec une école, et on peut faire de même avec un centre de formation ou une entreprise. Et je pense que c'est important aussi d'aller chercher aussi ce qui se passe à l'extérieur. faire ce double travail en fait, qui est à l'intérieur et à l'extérieur, pour créer du lien avec la personne. Après, deuxièmement, je pense que ce qui est important, c'est de trouver en fait une histoire commune.
C'est ça.
Une histoire commune. Je pense que ça permet de créer du lien aussi, une Exactement. Fois de plus, avec la personne. Et le où on va doit être aussi en cohérence avec, ouais. Avec la vision de l'entreprise, avec la vision du centre de formation, avec ses valeurs et aussi avec... ses attendus.
Totalement. Je pense que pour enchérir sur ce que tu disais, lorsque tu parles de l'histoire commune, je me dis généralement quand on postule toujours dans la main tendue, en gros, s'il vous plaît, acceptez-moi. Quand on est dans cette ambiance, dans ce schéma de réflexion, je pense que des gens se tirent une balle dans le pied. Parce que, en tout cas, moi, je suis intimement convaincu qu'il faut plutôt postuler, quel que soit le milieu, hein, qu'il faut plutôt postuler dans un esprit de collaboration. C'est-à-dire, j'ai des compétences que je sais valoriser. Vous avez une formation, vous avez des modules qui m'intéressent. Comment est-ce qu'on va collaborer de telle sorte que mes compétences, je les mette au profit de votre formation? Ça va vous rapporter, voici, ceci, ceci, ceci. Parce qu'en même temps, je donne aussi de l'argent. Lorsqu'on est dans le milieu étudiantin, je vais également donner de l'argent. Donc, je pense que lorsqu'on reste dans cette optique de collaboration, là, on prend du recul et on essaie de voir des deux côtés qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter. Et lorsqu'on arrive à mettre le point, à mettre le doigt sur ce qu'on peut s'apporter mutuellement, que ce soit une formation ou que ce soit un emploi, généralement, on arrive à montrer à la personne en face qu'on n'est pas dans un manque ou dans un besoin outre mesure. Non, on est dans une véritable optique de partage et de travail ensemble. Parce que parfois, on oublie qu'on doit travailler ensemble avec le recruteur, on oublie cela. Et on pense que non, on n'est que des enfants. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même sortir de cette infantilisation de nos candidatures. Et la plupart du temps, nos candidatures sont infantilisées. On supplie, littéralement.
Bah en fait, t'as raison, c'est une question de posture, en fait.
Exactement, il ne faut pas être dans une posture dans laquelle on supplie. Non, ouais. J'ai fait ceci, je suis là où je suis parce que il y a eu des choix. J'ai quand même travaillé. Et donc, par rapport à cela, voici ce que je veux. Et je sais que vous pouvez m'aider à l'obtenir de la même manière que je vais mettre tout mon engouement, tout mon dévouement, toutes mes compétences au profit de votre formation.
Donc si je comprends bien, je pense que c'est important d'assumer qui on est et arrêter de faire du politiquement correct. Parce que le fait qu'on soit lycée, on est noyé dans la masse. Et comme on disait, il y a beaucoup de concurrence. Mm-hmm. Et je pense que c'est important aussi de savoir faire preuve de différenciation en fait, sur le marché du travail et sur le marché étudiantin. Parce qu'on ne va pas se mentir, les centres de formation, c'est un marché aussi.
Ah bah bien sûr. Bien sûr. Et là où ce que tu disais, c'est très intéressant, lorsque tu parles d'assumer ses imperfections.
Ouais.
Bah, c'est... Qu'est-ce que tu... Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Regarde, exemple tout bête, on parlait de l'entretien. L'entretien, ça fait peur.
Oui.
Pourquoi pas, en fait, l'assumer? Ok, je suis devant vous. C'est un enjeu extrêmement important pour moi d'être là aujourd'hui. Et je vous avoue, j'ai le trac. J'ai peur. Mais... ça me tient tellement à cœur que j'ai souhaité être là devant vous et je vais vous raconter mon histoire et qui je suis. Et là déjà, on crée déjà un lien. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'on assume le fait qu'on a peur, on assume le fait qu'on est imparfait et on avance quand même. Et déjà, d'une manière implicite, il se dit « Ok, ce gars, cette fille, cet homme est courageux et malgré cela... » Il avance. Et du coup, on va créer une empathie chez la personne parce que malheureusement, parfois, on va être parfait. Mais le fait d'être parfait, malheureusement, ça ne crée pas cette partie émotionnelle. Ça ne touche pas dans cette partie émotionnelle. Je pense que c'est important. Ouais, exactement.
Ouais.
Et en fait, on ne se donne pas le droit à l'erreur. Mm-hmm. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est important d'assumer cette partie-là sur le fait de « Ok, je suis imparfait, mais je compte bien m'améliorer. » C'est pas grave de ne pas avoir la réponse à tout. Je n'ai pas la réponse. Par contre, j'ai une piste et je vais dès que j'ai la réponse, je reviens vers vous. Ça montre en fait qu'on fait preuve de proactivité, c'est-à-dire que demain, s'il se projette avec toi, si, dans une situation de travail de groupe, dans une situation d'un projet ou sur une tâche, il va se dire « Ok, si je lâche dans la nature et qu'il n'a pas la réponse, il ne va pas s'arrêter. »
Exactement.
Il va aller chercher les réponses, il va aller creuser, il va aller même innover, parce que innover, parfois, c'est une problématique, on innove sur une problématique, c'est-à-dire « Ok, il y a, je sais pas, il y a un chemin qui est bloqué, bon, on va faire un pont. C'est tout bête, mais parfois l'innovation se base sur une problématique et il va dire, ok, cette personne est autonome, cette personne, je peux lui faire confiance et elle est capable d'aller au bout d'un projet. Et c'est plein de petits, c'est une posture qui est vraiment importante à prendre en compte, je pense, dans le cas d'un entretien.
Totalement. Et même pour ajouter quelque chose, même par rapport au fait d'assumer ses imperfections, ce sont ces imperfections même, et là, quand on va prendre le cas des études et des candidatures pour avoir une formation, généralement, il y a certaines matières dans lesquelles on n'a pas de bonnes notes, par exemple, peut-être que le semestre s'est assez mal déroulé. Et je pense que par rapport à cela, il faut réussir à justifier ces imperfections, à dire, voici, ça ne s'est pas bien passé, pourquoi ? J'ai un ami, par exemple, qui avait eu au premier... Généralement, le premier semestre, c'est toujours le semestre le plus important.
Ouais.
Au premier semestre, il n'a pas du tout eu la moyenne. Et il a expliqué pourquoi il n'a pas eu la moyenne. Et là aussi, c'est là où c'est important de parler de sa particularité, de sa spécificité. J'explique le propos. Mon ami, il est comme moi, il est togolais, donc il est arrivé ici, et c'est en courant d'année. Donc il est arrivé ici en septembre, et il fallait donc qu'il s'habitue, qu'il s'accommode à l'environnement d'ici. Et malheureusement, au premier semestre, il n'a pas eu la moyenne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rédigé une lettre de motivation et dans cette lettre de motivation, il expliquait pourquoi il n'avait pas eu la moyenne. En disant que voici, quand il était arrivé, il avait enchaîné un travail à côté et que étant donné qu'il fallait qu'il s'accommode, qu'il prenne ses marques, ça l'a malheureusement empêché de pouvoir être optimal. Que même si voilà, le travail qu'il fournissait était quand même un travail assez acharné, que ce sont juste certains éléments qui lui ont manqué. Et au fond, quand on le fait, on montre que ce n'est pas le travail qui est le souci. Ce n'est pas la capacité de travail de la personne. Non, c'est juste que cette personne-là, de par sa condition, de par la manière dont elle est, de par la manière dont elle a vécu, sur l'instant T, ce résultat, il est justifié parce que toute personne dans sa situation aurait également le même résultat. Et donc, je pense que lorsqu'on montre ceci, ça montre au recruteur que cette personne, elle est là pour travailler, elle va le faire. Il suffit juste qu'on lui donne tous les moyens et qu'on la mette dans les circonstances et conditions qui vont lui permettre de réussir et elle réussira.
Je te rejoins totalement et je voudrais rebondir sur cette partie-là parce que je pense que c'est important à prendre en compte. C'est que certes, à l'heure actuelle, on peut dire j'ai raté mon semestre, j'ai des circonstances atténuantes. Et je pense qu'il y a une autre chose aussi à prendre en compte, oui, en complément de ce que tu dis, c'est le fait de se dire, ok, parfois on essaie de vouloir être parfait lors d'un entretien, mais personnellement, dans le cadre des entretiens que j'ai eus et qui ont le plus marché, c'est quand j'ai assumé en fait mes échecs. Je m'explique. Lorsque j'avais eu un projet entrepreneurial et que je me suis foiré, je lui explique pourquoi je me suis foiré, je lui explique qu'est-ce que ça m'a apporté. Du coup, ça rassure. Parce que il se dit, cette personne, elle est capable de se remettre en question, cette personne est capable de s'adapter, cette personne est capable de s'améliorer au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est vraiment important de prendre en compte parce qu'on se révèle souvent dans l'adversité et parfois, en fait, on occulte cette partie-là et on parle toujours de nos réussites, on parle toujours, en fait, de la meilleure version de nous-mêmes. Et je pense que c'est important, en fait, de se dire, ok, dans l'adversité, j'arrive tout de même à ressortir quelque chose pour devenir meilleur parce que je pense que c'est là qu'on révèle les forces de caractère. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on est quand même dans un monde professionnel qui a flux tendu, qui est avec une forte concurrence. Et je pense que la confiance aussi, elle vient aussi des personnes qui ont un caractère.
Bien sûr.
Qui ont cette force de caractère, cette personne qui est capable, qui est fiable, cette personne qui est capable de se relever, cette personne qui est capable d'aller au bout de l'effort, malgré le doute, malgré la peur.
Comme tu le dis, le monde change tellement, les enjeux changent tellement qu'au fond, la caractéristique principale, je pense, la compétence principale aujourd'hui doit être l'adaptabilité. Montrer que je peux m'adapter, montrer que je n'ai pas peur de m'adapter, montrer que je suis en train de tendre une adaptation, tout en ayant bien sûr ses convictions propres. Et je pense que lorsqu'on est dans ce cadre-là, on montre qu'on est humain, on montre qu'on a des émotions et surtout on montre qu'on tend vers le meilleur. Parce qu'au fond, c'est ça, on a tous envie de cheminer avec quelqu'un qui tend vers le meilleur parce qu'on sait que l'échange sera un échange bénéfique pour nous deux.
Tout à fait. D'après toi, comment on pourrait résumer en fait l'ensemble de notre podcast?
Ah oui, c'est vrai. Alors, pour résumer, pour un rapide récapitulatif, on a d'abord parlé de l'avant-candidature. Au lieu de rester dans des sentiers battus, dans des sentiers traditionnels, il faudrait plutôt essayer d'élargir son champ de perspective. Élargir son champ de perspective, donc en sortant de ces sentiers-là, et essayer de questionner certaines formations peut-être sur lesquelles on n'aurait pas mis notre espoir au départ, certains modes de formation particulièrement. Au lieu de rester juste sur un aspect traditionnel, peut-être essayer de voir les alternances, essayer de voir les formations à distance, des formations supplémentaires,
donc,
etc.
Diversifier ses sources.
Exactement.
Et d'aller creuser.
Totalement. Et là aussi, où on parlait également de cette avant-candidature, ne pas se contenter de la collecte d'informations uniquement sur la base des, soit de l'accueil ou sur la base
un prisme qui est un peu plus promoteur.
Exactement. Il ne faut pas rester sur le prisme promoteur, mais plutôt essayer de faire une analyse de terrain. On parlait également de se renseigner sur le terrain. Et après, on a parlé de l'entretien.
Ouais.
L'entretien dans lequel il faut y aller avec un triptyque particulier. Qui est-ce qu'on est ? D'où est-ce qu'on vient ? L'histoire ? Et où est-ce qu'on va ?
Tant
que ces trois éléments sont en cohérence, là, on réussira à tirer également la cohérence du choix de notre parcours, du choix de la formation pour laquelle on est en train de postuler.
Et à partir de ce moment-là, ça permettra aussi d'avoir les armes pour aller aussi confronter, même relier à cette personne. Et pour relier à cette personne, on disait que c'est important de prendre en compte aussi l'histoire de la personne, ses valeurs, son histoire, et aussi où elle va.
Totalement.
Où elle va. Et que ce soit un recruteur, que ce soit un centre de formation ou que ce soit une entreprise tout simplement.
Exactement. Alors, je pense qu'on a fait le récapitulatif. Hein. Donc je pense que là, on est au terme de...
On est au terme de ce podcast,
Exactement,
hein.
On est au terme de ce podcast. C'était très intéressant, très riche. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont réussi à en tirer le maximum de fruits. Hein, je pense qu'on est un peu comme des arbres.
C'est ça.
On lance des mangues. J'espère que les gens en ont récupéré. Donc voilà, donc là, on est au terme de notre émission d'aujourd'hui qui portait sur la candidature, sur l'entretien, sur la posture d'un étudiant ou d'un jeune qui est en train de candidater, soit à destination d'une formation ou à destination d'un boulot, donc d'un emploi. Pour terminer, moi, le conseil que j'ai à donner principalement, et ce qui ressort de nos échanges, c'est qu'il faut faire preuve d'adaptabilité, d'ouverture de son esprit, élargir son champ de perspective et faire le maximum pour avoir son triptyque bien incrémenté dans la tête, implémenté dans la tête. Se dire qui est-ce que je suis, d'où je viens et où est-ce que je vais. Quand on a ces trois éléments, ce sera toujours avec cohérence qu'on choisira des formations. Et voilà, donc merci beaucoup aux internautes, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. C'était CEO Podcast, Pierre-Damien Fougou et Tom Brel, et on vous dit à la semaine prochaine.